Bonsoir tout le monde et bienvenue au Stade Saputo pour ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et le DC United. Mon nom c'est Jérémy Filosa et je serai à la description du match de ce soir et en votre compagnie jusqu'à 23h ce soir. Et celui qui sera à l'analyse du match, Arcadio Marcuzzi, est à mes côtés. Salut Arcadio!
Salut Jérémy!
Comment ça va mon ami?
Très bien et toi?
Oui, ça va. Une semaine chargée quand même avec le match des étoiles et bon plusieurs rumeurs de mercato qui finalement n'ont pas abouti, en tout cas pas pour l'instant. Alors, on va parler du match de ce soir avant de parler de ce qui se passe à ce niveau-là. L'Impact de Montréal, donc ce soir, qui reçoit la pire équipe de la Conférence de l'Est, mais attention, hein, c'est pas à prendre à la légère, puisque le DC United, oui, ils sont derniers, mais il y a un paquet de circonstances qui font en sorte qu'ils se retrouvent derniers. Premièrement, ils ont ouvert leur nouveau stade récemment, le Audi Field, et donc ils s'étaient organisés pour jouer moins de matchs en début de saison et plus de matchs à partir de l'ouverture de leur stade. En plus, Wayne Rooney vient d'arriver il y a de cela quelques matchs seulement. Donc, c'est pas parce que DC United est une si mauvaise équipe que cela qu'ils sont en dernière place. Ceci dit, ça demeure un match Arcadio à domicile, malgré la présence de Wayne Rooney, que tu te dois d'essayer de gagner. On s'entend là-dessus.
Ah, tout à fait. C'est le type de match que l'Impact se doit de gagner dans cette course, ou du moins dans cette tentative d'accéder aux séries éliminatoires après un début de saison catastrophique pour le bleu-blanc-noir.
Oui.
C'est un rival de division. C'est la dernière équipe du classement. C'est le premier de deux affrontements contre DC United. Donc, l'Impact de Montréal doit aller chercher 6 points dans ce type d'affrontement, dans ce type de duel. On sait que DC, avec l'acquisition de Wayne Rooney, c'est une équipe qui est un petit peu transfigurée.
Oui.
Ils ont égalé leur nombre de victoires des 14 premiers matchs lors des 4 derniers, avec 2 victoires en 4 matchs. Ils en ont 4 sur le total de l'année, mais dont 2 qui sont justement dans les 4 derniers matchs. Donc, depuis l'arrivée de Wayne Rooney. Donc, ça prouve que cette arrivée-là est venue insuffler une nouvelle énergie. C'est sûr que quand on amène un gars de haut profil, non seulement sur le terrain, ça sent, mais à l'extérieur. On se souvient quand Didier Drogba est arrivé. On se souvient quand Alessandro Nesta est arrivé. Ça donne une énergie aux joueurs, ça amène un vent de fraîcheur, un vent de positivisme.
On le levait avec Schweinsteiger.
Absolument, du côté de Chicago, tout à fait, Jérémy. Donc, de ce côté-là, je pense que DC United arrive avec ce vent de fraîcheur dans les voiles et l'Impact de Montréal serait très malvenu de les prendre à la légère.
Là. Écoute, juste une petite parenthèse sur Wayne Rooney. Je dois te dire, si quelqu'un m'avait dit là, il y a de ça 5, 6, 7 ans, que j'aurais la chance de décrire Wayne Rooney en action, j'y aurais jamais cru. Honnêtement, là, je trouve ça quand même assez fantastique qu'on soit capable d'amener un joueur comme cela en Amérique du Nord. Surtout à 33 ans, il n'y a pas 37 ou 38. Certains vont dire que c'est pas un 33 jeune, parce que Wayne Rooney, la façon dont il joue au soccer, ça use. Hein? C'est un peu comme Samuel Piette. Il joue avec son corps, il se donne match après match. Mais quelle opportunité fantastique nous avons de décrire. Plutôt, nous avons décrit des matchs avec Zlatan Ibrahimovic cette année. On l'a fait avec Bastian Schweinsteiger. On le fait maintenant avec Wayne Rooney. Et on l'a fait aussi avec Joseph Martinez la semaine dernière. On va y revenir. Il a marqué 2 autres buts. Mais assez fantastique l'arrivée de Wayne Rooney. Je ne sais pas si tu as vu la publicité de Zlatan Ibrahimovic qui appelle les abonnés de saison du Galaxy.
Ben oui.
Assez fabuleux comme publicité.
C'est, une très belle initiative du Galaxy qui prend la plus grande vedette du club pour appeler un membre, un détenteur de billets de saison pour lui demander s'il voulait renouveler. Toute une surprise qu'il a eue à l'autre bout du fil, l'ami. Donc de ce côté-là, ouais, c'est vraiment une ligue qui est en plein essor. En même temps, il y a beaucoup de gens qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de vedettes sur le tard à la MLS. Moi, je pense qu'encore aujourd'hui, la clé du succès pour cette ligue et pour les équipes, c'est d'avoir un juste équilibre. C'est sûr qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Mais maintenant, on a des gars justement comme Martinez qui sont ici. Un gars comme Piatti qui est arrivé à la MLS à 27 ans, 28 ans. Donc, c'est loin d'être une ligue de déclin de carrière. Mais ces gars-là amènent tout leur savoir-faire, leur expérience.
Et surtout une certaine attention vers
exactement,
la ligue.
Toute leur aura qu'ils ont au niveau du soccer mondial, parce qu'on s'entend, Wayne Rooney, ce n'est pas qu'une vedette en Angleterre, ce n'est pas qu'une vedette en Europe, c'est une vedette globale. La même chose pour Zlatan, on peut dire la même chose de certains joueurs qui sont venus en MLS, comme Didier Drogba, pour ne nommer que ceux-là. Donc, je pense que la MLS gagne à les apporter, parce qu'aussi, ces gars-là font la différence sur le terrain.
Oui.
David Villa en est un autre, ex-champion du monde, qui plus est. Donc, ces gars-là ont un très bon rendement sur le terrain. S'ils viennent avec la bonne attitude, c'est toujours des expériences positives. Donc, je pense que la MLS gagne à continuer à le faire. Et ils arrivent de plus en plus jeunes, il faut le dire. L'expérience MLS les tente de plus en plus jeunes. Le fait de vivre en Amérique du Nord est très un attrait pour beaucoup de joueurs européens et leurs familles. Donc, de ce côté-là, les budgets changent. Ça permet d'avoir des joueurs qui viennent plus tôt. Donc, c'est vraiment une ligue qui est en plein essor. On l'a vu d'ailleurs au match des Étoiles mercredi dernier avec une équipe qui, bon, c'était pas la première équipe de la Juventus, l'équipe A, mais en même temps, on a eu un match tout à fait excitant. La Juve gagne au penalty après un match de 1-1, mais la MLS aussi, il y avait plusieurs canons qui n'étaient pas là, dont Zlatan Villa, Wayne Rooney qui est arrivé sur le tard. Donc voilà, je pense on fait bien les choses du côté de la MLS. C'est une croissance organique qui est positive et les bases sont solides. Donc, contrairement à ce qui a pu se faire par le passé avec la NASL, la croissance de la MLS, pour moi, elle continue. Elle est assurée, du moins, de continuer pour les 15-20 prochaines années.
Oui, absolument. Et on va y revenir à ce match des Étoiles parce que on va en glisser un tout petit mot. On a le temps là, dans l'avant-match. On a une grosse heure devant nous. D'ailleurs, Wayne Rooney est dans le 11 partant pour DC United. Je sais qu'en début de semaine, il y a eu un doute étant donné sa blessure la semaine dernière. Mais on a su en milieu de semaine qu'il serait partant là, pour ce match contre Montréal. Donc, il est là. Il joue comme attaquant de pointe ce soir. Regardons un peu ce qui se passe du côté de l'Impact de Montréal. Dans le 11 partant. Bon, écoutez, c'est pas mal ce qu'on voit d'habitude. Par contre, Yukar Aitala va reprendre le poste de latéral gauche, ce qui est un peu normal. Daniel Lovitz, peut-être une petite baisse de régime dans les derniers matchs, quoi qu'il n'a pas mal fait, mais Aitala retrouve donc le flanc gauche. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'Arcadio, t'sais, on voyait que... Bon, je vais essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent. Essayez d'imaginer Raitala qui jouait sur le couloir droit. Donc, montait en territoire adverse. Et pour centrer, il devait se retourner et utiliser son pied gauche. Bien sûr, il est gaucher. Pour centrer des ballons. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton ballon, il est entrant vers le gardien et non sortant vers ton coéquipier, ton attaquant qui fonce vers le filet. Donc, c'était loin d'être idéal.
Ouais, c'est pas idéal, puis surtout que bon, Raitala, c'est pas le gars le plus offensif non plus.
Non.
C'est pas dans ses cordes, mais c'est vrai que je pense que c'est une petite récompense aussi pour lui de lui donner un match à son poste. Je pense que ça va lui. Il en a pas joué souvent. La plupart des matchs, il les a joués hors poste, soit en charnière centrale ou sur le couloir droit, qui est complètement à l'opposé de ce qu'il fait habituellement. Donc,
oui.
Content pour lui, c'est un fier soldat, en espérant qu'il connaisse un bon match, qu'il soit récompensé pour la suite.
Donc, Raitala va prendre la place de Lovitz ce soir. En fait, Lovitz, là, il n'est pas du tout dans l'alignement. Je ne sais pas s'il y a une transaction. Je ne sais pas. Je ne penserai pas parce qu'on ne peut pas dire qu'on a énormément de profondeur non plus sur le flanc gauche à la défensive. Donc, Lovitz n'est pas dans l'alignement. Et donc, on a donné à Michael Petrasso un départ sur la droite. On vous rappelle que Chris Duval n'est même pas prêt à recommencer à jogger. Là, on pense que cette semaine, il va recommencer à courir. Mais donc, c'est mince là, dans les couloirs là, défensivement pour l'Impact. Donc, Evan Bush devant le filet, Rod Fanny et Rudy Camacho au centre, Michael Petrasso sur la droite, Yukar Aitala sur la gauche. Au milieu, ce sont les habituels Samuel Piette avec Saphir Taider et Ken Krolicki. Et en avant, encore une fois, les habitués, Matteo Mancoso en pointe, Nacho à gauche et Alejandro Silva sur la droite. C'est mince encore sur le banc pour l'Impact aujourd'hui. Clément Diop, le gardien substitut, Victor Cabrera. Il y a Shamit Chaume et Mathieu Chouanière, les milieux de terrain, ainsi que Jason Vargas. Il y a aussi Dominic Oduro et Anthony Jackson-Hamel. Bon, on sait que Chouanière et Chaume, ce sont de jeunes joueurs. Vargas ne connaît pas beaucoup de succès. Oduro, il est là pour remplir un chandail seulement, pour se rendre à 18. On va le dire comme ça parce qu'on ne s'en sert jamais.
C'est la réalité.
c'est ça. Anthony Jackson-Hamel revient de blessure. Donc, encore là, je pense que c'était un peu exagéré de penser qu'il pourrait obtenir un départ aujourd'hui. Maintenant, parlons de tout ce qui entoure l'Impact parce que, écoute, on aurait aimé des ajouts. Arcadio, on est à 4 jours seulement de la fermeture de la fenêtre des transferts. Il n'y a toujours aucun ajout. On a fait une seule transaction de joueurs.
C'est un départ.
C'est un départ. Donc, Raheem Edwards qui a quitté vers Chicago. Pour le reste, il n'y a pas eu d'ajout. Et donc, ça demeure mince en attaque avec Matteo Mancoso qui obtient un autre départ. On va se le dire par défaut.
Par
là.
Défaut, ouais. Ben oui.
Oui.
Ben oui.
Oui, parce que Oduro, on le fait pas jouer. Anthony Jackson-Hamel revient de blessure. Donc, c'est très, très, très mince en attaque. Arcadio, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que le scénario le plus probable, ce soit qu'il y ait une transaction intra-MLS là, pour l'impact? Là, parce que au niveau des transferts, on n'entend pas grand-chose et il reste 4 jours seulement. C'est très peu possible.
Je suis confiant, en fait. Ben, je suis confiant. Je crois que si bien tout porte à croire que ce serait, disons, le scénario le plus probable, je crois encore qu'on va nous sortir un lapin ou un lièvre d'un chapeau, là, quelque part d'ici la fin du mercato. Peut-être quelque chose dont on n'a pas trop entendu parler, qu'on n'a pas vu venir. Peut-être...
On a vu Justin Meram quitter Orlando, retourner à Columbus.
Retourner à Columbus, voilà. Mais je pense que l'Impact de Montréal, je pense qu'on va bouger. On va aller chercher du moins un joueur, probablement un attaquant. Mais encore là, il va falloir voir si c'est de la qualité, si c'est disons, on s'améliore de manière exponentielle par rapport à ce qu'on a déjà. Ça peut pas être, disons, ça peut pas être pire que qu'est-ce qu'on a devant en ce moment.
Donc, 4 buts.
Avec Mancozu et Jackson qui ne tournent pas à plein régime, loin de là. Jackson revient de blessure en espérant qu'il sache saisir cette opportunité lorsqu'il sera en forme de match. Mais j'ai tendance à croire qu'on va bouger. Sinon, oui, il reste toujours la possibilité d'un échange intra-ligue, mais en même temps, les attaquants de qualité se font rares, ceux qui sont disponibles, évidemment. Faudrait en donner pas mal aussi. Donc, l'impact est loin d'être dans une position idéale. On s'est un peu peinturé dans le coin. Encore une fois, il faut le dire, dans un mercato, pour différentes raisons, mais cette fois-ci, l'Impact de Montréal, avec cette saga Jimmy Briand, c'était le renfort qu'on attendait. C'était le renfort, disons, de choix de Rémi Garde. La déception du coach, elle est palpable.
Ah,
Jérémy,
oui,
à chaque
absolument,
fois qu'il parle
absolument.
De ce dossier, on le sent amer.
Absolument.
Je pense, d'ailleurs, je n'ai pas d'infos de ce côté-là, mais de la façon de que Rémi Garde s'exprime par rapport à ce dossier-là, c'est certain qu'il y a eu des frictions avec le président Saputo. Là. Je suis convaincu qu'on a eu des discussions assez animées par rapport à ce dossier-là, surtout quand Rémi Garde mentionnait la semaine dernière, avant qu'on sache que ce dossier était définitivement clos, qu'il a essayé du mieux qu'il pouvait de rapiécer les choses, de reparler à Briand. Il a dit de manière « j'ai essayé, j'essaye, je n'abandonne pas ».
Exact.
La manière dont il l'a dit, c'était clair que c'est lui là, qui tentait de rétablir les canaux de communication. Donc, en espérant que ça... C'est normal aussi qu'il y ait des frictions entre un entraîneur et son président. Là, dans le foot, ça se voit à toutes les années, dans toutes les équipes. D'ailleurs, Rémi Garde a travaillé avec Jean-Michel Aulas à l'OL, un des présidents les plus, disons, colorés, pour ainsi dire, de la Ligue 1. Donc, c'est certain qu'il y a eu des frictions de ce côté-là aussi. Il n'en est pas à ses premières armes, mais faut espérer que la relation n'en sorte pas trop, chamboulé.
Ben, écoutons, disons
entre
que c'est
Saputo et son entraîneur.
On peut pas dire que c'est la première fois, hein, déjà. Je veux dire, la relation n'existe que depuis 7 ou 8 mois, et déjà, c'est pas la première fois qu'il y a des petits accrochages entre Garde et Saputo. C'est dommage, c'est certain. Je veux que les gens comprennent, par contre, une chose. Donc, c'est la période des transferts qui ferme le 8 août. Mais un joueur sans contrat, qui n'a pas besoin d'être transféré, c'est-à-dire qu'il est libre.
Ouais, un transfert libre.
Pourrait rejoindre l'Impact de Montréal après le 8 août. Donc ça, il faut le comprendre. On peut encore faire des ajouts, mais ça ne peut pas être des transferts. Donc il faut absolument que ce soit un joueur qui soit sans contrat. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pige parmi les joueurs que les autres équipes n'ont pas voulu. Hein, c'est comme, tu sors un soir, là, il est rendu 3h-20 du matin, ben, tu ramasses celle qui reste. Hein? Qu'est-ce que tu veux? On le dira pas comme ça, mais c'est un petit peu ça. Hein?
Ben,
une blague plate, là.
L'Impact, dans la MLS, l'Impact a fait une habitude aussi d'aller piger dans les waivers, les restes des autres équipes. Là, on l'a vu. Puis c'est des joueurs qui sont partants aujourd'hui. On pense à Duval, on pense à Lovitz, à Raitala. Quand tu disais que c'était mince, là, justement, sur les flancs défensivement, ben c'est parce qu'on a des joueurs, des waivers qui sont devenus partants chez l'Impact de Montréal. Donc, il va falloir faire attention de ce côté-là, parce que c'est pas là qu'on trouve la qualité, là, on s'entend.
Non, et Lovitz, soit dit en passant, on vient d'avoir la confirmation, donc ce serait un pépin physique, donc il est blessé. Donc, Lovitz pas disponible pour le match de ce soir, donc il n'y a aucune profondeur ni sur la position de défenseur latéral droit, ni sur la position de latéral défenseur gauche. Donc, il va falloir que Petrasso et Raitala se rendent jusqu'au bout de ce match-là. Sans quoi, ben, on va être obligé d'utiliser peut-être un Cabrera sur les flancs, chose qu'on a, on a rarement vu dans le passé. En tout cas, on verra si jamais on se rend là. Mais je pense que ce soir, l'objectif, c'est que Raitala et Petrasso jouent le match au complet. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour, on va revenir sur ce match des étoiles de la MLS. Match grandiose. Plus de 72 000 spectateurs à Atlanta. On a fracassé un nouveau record d'assistance. Donc, Arcadio Marcosi et moi, on jase de tout ça. Au retour de cette pause, vous écoutez le soccer et l'émission d'avant-match de l'Impact de Montréal sur une station Cogeco. De retour au stade de Saputo, l'Impact de Montréal ce soir reçoit la visite du DC United. DC United dernier au moment où on se parle dans la conférence de l'Est. Soit dit en passant, cet après-midi, du côté d'Atlanta, Arcadio, ça s'est terminé 2-2 entre l'Atlanta United et le Toronto FC. Et qui d'autre que Joseph Martinez qui a marqué deux autres buts. Donc, il est maintenant à 26. Il n'est qu'à un but du record, avec encore 10 matchs à jouer pour Atlanta. Assez incroyable, merci. Il est en feu depuis le début de la saison.
Ah, c'est sûr. Et disons que la saison précédente avait été annonciatrice de ce qu'il était capable de faire. Et Joseph Martinez continue d'en mettre plein la vue. Il faut dire qu'Atlanta possède une machine offensive du tonnerre avec un gars comme Miguel Almirón derrière qui crée un peu la bougie d'allumage de ce côté-là. Et du talent offensif comme Hector Villalba, pour ne nommer que lui, Ezequiel Barco qui s'est greffé à l'équipe récemment, qui n'a que 18 ans. Donc, Martinez est le fer de lance de cette attaque dévastatrice et il le fait à merveille. Il est extrêmement efficace, toujours au bon moment. À la bonne place, au bon moment, il a un flair incroyable dans le dernier tiers.
Oui.
Et le rythme qu'il a en ce moment est absolument incroyable.
Oui.
Moi, je pense que, à moins, évidemment, d'une blessure, d'une catastrophe, ce record-là, il va être non seulement brisé, mais pulvérisé. Il va mettre la barre très haute là, pour les prochaines générations. Ça va être vraiment intéressant à suivre tout au long du restant de la saison.
Quand on regarde Martinez, 26 buts. Le deuxième derrière lui, c'est Zlatan Ibrahimovic. Il en a 15. Donc, il accuse 11 buts de retard sur Joseph Martinez. Assez incroyable, là, vraiment, il domine cette ligue. Je ne sais pas pendant combien de temps on va être capable de le garder ici, ça c'est l'autre question.
Et Zlatan a tout un rythme aussi, je pense qu'il a marqué dans le trois quarts des matchs qu'il a joué, il a au moins un but, Zlatan.
Il a eu un tour du chapeau dans le dernier.
Voilà, il est arrivé sur le tard cette saison et maintient un rythme assez incroyable, donc c'en est un autre aussi qui, sur une saison complète à MLS, pourrait faire des dégâts. Là.
Alors, du côté de Toronto, eh bien, on avance quand même du côté du classement. Écoutez, là, on est maintenant rendu 8e du côté de Toronto, donc à 2 places seulement d'une place en série. Donc, avec le match nul d'aujourd'hui, ils ont maintenant 23 points et Atlanta en ont 48. Écoutez, c'est passé bien près pour que le Toronto FC perde ce match-là, étant donné qu'il tirait de l'arrière 2-1 dans les arrêts de jeu. Et finalement, on est allé chercher un but égalisateur du côté du Toronto FC. Donc, on sauve au moins un point. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Toronto. On va voir ce qui va se passer dans les autres matchs, bien sûr. Donc, un des deux buts de Martinez était sur penalty. Maintenant, en parlant de Martinez, il a marqué un beau but au match des Étoiles, préparé par qui d'autre? Nacho Piatti. Arcadio, au-delà du match, là, parce que là, on est rendu quand même 3 jours plus tard, on a tous eu la chance de parler de ce match nul-là, où finalement, gagné au penalty par la Juve. Mais 72 000 spectateurs à Atlanta. Écoute, on le sait que c'est un marché absolument incroyable qui fonctionne à plein régime. On a fracassé le record d'assistance de tous les temps en ouvrant là, ces 3 000 places debout. À la dernière minute, il y a des gens qui se sont achetés des billets et se sont installés sur les terrasses du stade et ont regardé ce match. Mais est-ce qu'on peut dire, Arcadio, selon toi, que la MLS maintenant fait partie du Big Five des ligues nord-américaines? Parce qu'avec un match des étoiles aussi grandiose, avec toute l'attention médiatique qu'ils ont obtenue pour ce match des étoiles, je peux pas faire autrement que de penser que cette ligue-là, elle est probablement encore, au moment où on se parle, la 5e des 5.
Ouais, mais je pense qu'elle est là.
Ah, moi, je pense qu'elle y est. Elle a fait ses preuves, la MLS. On a dépassé la 25e année. On est à la 23e saison de la MLS. C'est une ligue qui, comme je le disais tout à l'heure, grandit de manière exponentielle d'année en année, tant en termes, disons, structurels qu'en termes de qualité sur le terrain. Et bon, le foot étant ce qu'il est, disons, avec les synergies globales qu'il y a autour du soccer, ben, la MLS n'a pas le choix de se positionner parmi ce Big Five-là. Maintenant, le Big Four, évidemment, avec la MLS, devient le Big Five. Ceci étant dit, pour vraiment compétitionner avec les grandes ligues nord-américaines, notamment la NFL, le baseball, le basket, la MLS se doit encore une fois de continuer son travail au niveau corporatif, d'avoir des meilleurs
droits
télé, avoir des plus hauts salaires aussi, moins de, disons, de différence entre les plus petits salariés et les vedettes, ceux qui ont les plus gros chèques de paye. Donc, de ce côté-là, il reste encore une fois beaucoup de travail à faire pour la MLS. Mais sinon, pour le reste, en termes d'attrait, en termes d'engouement, et ainsi de suite, de qualité sur le terrain, il n'y a pas à dire. La MLS fait partie de ce maintenant Big Five nord-américain. Je partage ton avis là-dessus.
Oui, ça a été quand même un beau week-end des étoiles. Moi, j'apprécie la formule avec une équipe, bien sûr, européenne qui vient faire son tour ici. Les gens ont acheté des billets en masse. Il y a beaucoup de fan clubs de la Juve qui se sont déplacés pour aller voir ce match-là. En parlant de déplacer, Arcadio, regarde sur les abords du terrain présentement. Wayne Rooney s'échauffe avec ses coéquipiers et il y a vraiment une foule derrière le banc du DC United. Les gens se sont massés là pour prendre des photos. Les téléphones, on sort les téléphones, on fait des vidéos, on prend des photos et... Écoute, on a eu la même chose lorsque Zlatan est venu ici. On aura Bastian dans deux semaines ici encore une fois. Veux pas, là, Arcadio, on regarde l'attrait d'un gars comme ça. Et quand on parle, tu sais, on a eu la discussion avec les gens de l'Impact il y a de ça. Un an et demi après le départ de Drogba. Et la question qu'on s'est posée à l'interne, c'est est-ce qu'on va avoir une bonne équipe ou est-ce qu'on va avoir une équipe où il y a une star? Et je pense qu'à un certain moment donné, on regarde ça et on se dit... veux pas, ça te prend un nom. Je te parle pas, ça n'a pas besoin d'être ton meilleur joueur. Tu peux amener un joueur de l'extérieur qui sera pas meilleur que Piatti, mais qui a un nom, qui est connu, et qui tout d'un coup fait en sorte que le monsieur, madame, tout le monde décide de venir au Stade Saputo.
Ben, c'est certain, Jérémy. Écoute, pour moi, c'est un faux dilemme parce que oui, tu peux avoir une équipe avec des joueurs que si tu fais un bon recrutement, tu peux aller chercher des joueurs qui vont pas te coûter cher mais qui vont avoir un rendement qui est excellent et ça peut te permettre d'aller investir sur un gros nom, un gars qui justement, encore une fois, si tu fais bien les choses, va te faire vendre beaucoup de maillots, va faire venir monsieur, madame, tout le monde. On l'a eu ce gars-là d'ailleurs ici à Montréal. Il s'appelait Didier Drogba pour des raisons qui parfois étaient la faute du joueur, pour des raisons qui étaient parfois des fois la faute d'une mauvaise gérance au niveau du club, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas répéter l'expérience.
Oui.
Ça serait une grande erreur. Moi, je pense que Saputo a eu peur après Didier Drogba ne veut pas répéter l'expérience, mais il faudrait peut-être y repenser pour l'avenir.
Oui, absolument. On s'arrête le temps d'une courte pause. Il y aura le bulletin de nouvelles. Et tout de suite après ça, exceptionnellement, on va prendre quelques appels avant le match de ce soir. 514-790-9850, 1-866-790-9850 pour un commentaire rapide dans l'avant-match. L'Impact ce soir qui reçoit la visite du DC United. Ce beau programme se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour au stade de Saputo. Jérémy Filosa, Arcadio Marcuzzi pour ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et le DC United. Comme on l'a mentionné avant la pause, on va prendre quelques appels durant cet avant-match, chose qu'on fait quand même rarement, mais vous avez eu une opportunité de vous exprimer sur le match de ce soir, sur vos attentes, peut-être même sur le passage de Wayne Rooney. 514-790-9850 pour les gens de Montréal. Pour les gens de l'extérieur, 1-866-790-9850. On va débuter avec Pierre. Bonsoir.
Bonsoir, mon ami.
Salut, Pierre.
Moi, je viens de Québec. Si on parlait de l'avenue d'une superstar ou d'une meilleure équipe, moi, durant le temps de Drogba, là,
oui,
je suis allé au moins 6-7 matchs durant la saison.
Oui.
J'ai adoré. J'espère juste qu'ils peuvent aller rechercher. Parce qu'on voyait la qualité du jeu de Drogba là, qui était vraiment supérieure à tout le monde, tant qu'à moi, là, au niveau technique.
Et dans le cas de Piatti, par exemple, qui s'avère un des meilleurs joueurs de la Ligue, est-ce que c'est parce que son nom n'est pas connu que ça n'a pas le même effet? Parce que clairement, sur le terrain, lui aussi, il est une coche par-dessus tout le monde.
Bon, pour moi, c'est un attrait. Piatti également, il m'attire. J'adore le soccer, je connais la technique un peu, puis Piatti, pour moi, c'est un autre attrait. C'est sûr que ça tire peut-être moins qu'un gros nom comme Drogba.
Mm-hmm.
C'est peut-être là que ça serait... Je crois que ça attirerait plus avec un gros nom. Je crois que M. Saputo a les moyens de se payer ça. Fait que, si on veut augmenter la MLS, l'attrait pour le football le nord-américain, il faut y aller.
Donc, par exemple, cette saison, vous, combien de fois êtes-vous venu au stade Saputo, finalement?
Moi, je suis allé deux fois, puis j'ai quelqu'un de ma famille qui est là ce soir.
OK, bon, ben excellent. Merci beaucoup, Pierre. Bonne soirée. Bye bye. On poursuit avec Jonathan. Bonsoir.
Salut, salut.
Salut.
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Écoute, moi, j'ai la chance d'y aller à pied.
Ah, oh, ça, c'est excellent. Ça, c'est parfait.
J'ai pas de transport en commun puis du quarantine. Ça va être génial.
Excellent.
Écoute, c'est ma troisième fois que je vais voir l'Impact cette année. Je m'en avais dit cette semaine, mais je pense pas que ça joue trois fois l'Impact en 10 ans.
Non.
Il suffirait à bout de ça, à un moment donné. Écoute, non, c'est ça, le premier match que j'ai été. Oui, j'ai quand même été chanceux. J'ai vu Bastian Schweinsteiger contre le Fire.
Oui.
J'ai vu Laurent Simon qui est venu à Montréal lors du premier match d'ouverture. Puis je vais ce soir avec Ren Rooney. Fait qu'écoute, j'ai une tranche européenne assez bien garnie.
Donc, vous avez choisi ces matchs-là spécifiquement ou ça a donné comme ça?
Non. J'ai pas de billets de saison, mais je les ai choisis. Dans le cas que le calendrier est sorti, j'avais déjà des matchs présélectionnés Bon, c'est sûr, LAFC, le Galaxy, quand Ibrahimovic, bon, c'est sûr que ça aurait été le fun, mais il est venu trop tard, puis j'ai pas réussi à avoir des pièces, c'est assez soldat dans même pas une journée. Là.
Ouais, ouais.
C'est incroyable, puis dommage, parce que le match, on l'a perdu, fait que bon. C'est ça, donc, puis écoute, j'assure bien que ce soir, ça va être un bon match. Moi, d'après moi, je pense pas que Rooney va marquer un but, là. Moi, je pense qu'il va jouer un petit match tranquille, lui qui dit qu'il s'est peut-être remis d'une blessure,
ouais.
D'après moi, il va jouer sur ses talons. Mancuso, Piatti, écoute, j'espère que les gars vont rouler. Question, est-ce que Taider joue ce soir?
Oui, Taider va jouer, oui. Il est dans l'alignement partant, oui, absolument, avec Piatti et Kroenke.
Parce que Taider, il est sur une lancée, là, fait que ce serait le fun qu'il continue ce soir. Puis, si je peux te prédire un résultat, je vais dire 2-0 l'Impact.
Excellent. On a quelqu'un ici qui est d'accord, là.
Benoît Leroux, notre metteur en onde, fait la même prédiction
aujourd'hui.
Parfait. Ben écoute.
J'ai une petite question pour vous, si vous me permettez, Jonathan. Vous semblez aimer beaucoup l'Impact de Montréal. Vous semblez connaître bien votre foot. Qu'est-ce que ça prendrait pour vous pour devenir justement un membre, avoir votre billet de saison? C'est quoi la situation idéale de ce côté-là pour vous?
Pour que je m'achète des billets de saison?
Oui,
ou...
ouais, exactement. Qu'est-ce qui vous retient?
Fait, moi, les billets de saison, je ferais, je sais pas, moi, comment qu'on fait. Je vais à la billetterie, comme ça, je suis comment faire. Non, c'est vous qui comprenez des questions. D'après moi, bien sûr, il faudrait que je sois plus disponible ici. Mais deux exemples, je suis vraiment disponible en tout temps. Ce serait vraiment un joueur d'attaque qui est vraiment... Qui puncherait Montréal. Un Drogba 2.0, mais plus jeune, par contre. Un joueur, tu sais, Drogba, il est arrivé à quel âge à Montréal?
37,
ouais.
Si je me souviens bien.
36-37, un peu comme au hockey, tu es un joueur en fin de carrière.
C'est sûr, c'est sûr. C'est un Joseph Martinez, là, ça vous allumerait, là.
Ouais, Joseph Martinez, écoute. Ça m'allumerait pas juste moi, ça allumerait tout Montréal au complet.
Ouais, ça, c'est pas mal certain.
J'ai regardé le match cet après-midi, jouer à TSN, le match à Toronto. Écoute, bon, le premier, je sais pas si vous avez un petit peu les reprises, là. Mais ce joueur-là, là, il est tellement rapide, c'est incroyable. Là. Deux buts encore aujourd'hui, chapeau. Il va battre le record de la MLS.
Absolument. Merci Jonathan, il faut s'arrêter là-dessus. Très apprécié.
Bon match à vous.
Merci beaucoup. Alors, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour de ceci, eh bien, on aura la discussion qu'ont eu nos collègues Yannick Bouchard et Vincent Destouches un peu plus tôt lors des amateurs de sport week-end en rediffusion pour vous dans les prochains instants. Bien sûr, il sera question du match de ce soir. Donc, petite pause et on vous présente tout cela dans quelques instants.
C'est maintenant le moment de parler de l'Impact de Montréal qui poursuit sa route et sa course vers une place en série. Et ce soir, l'Impact qui accueille DC United au Stade Saputo. Pour en parler, on discute avec Vincent Destouches. Salut Vincent.
Salut Yannick.
Alors Vincent, oui, DC United, mais c'est aussi la visite de Wayne Rooney, grand joueur de soccer international, 253 buts en 559 matchs avec Manchester United. On a eu Zlatan Ibrahimovic quelque part au mois de mai. Là, maintenant, Wayne Rooney, les amateurs sont vraiment comblés de pouvoir assister aux performances de joueurs de ce très haut calibre.
Exactement, comme on l'était d'avoir David Beckham, voir Didier Drogba et compagnie. Oui. Et tu sais, je suis content que tu le mets dans la même catégorie que Zlatan Ibrahimovic, parce que Wayne Rooney, j'ai l'impression, moi, c'est un joueur qui a toujours été sous-estimé. Mm. Il n'a pas le mérite qui lui revient, et pourtant, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection anglaise. Il y a 2 ans, il était encore capitaine de l'Angleterre à l'Euro 2016, et on a l'impression qu'il est peut-être vieux, parce qu'on le voit depuis tellement longtemps, mais il ne l'est pas. Il a 32 ans. Pour moi, c'est jeune, en tout cas. Et il a marqué son premier but en championnat d'Angleterre. Il était âgé de seulement 16 ans. Mmh. Donc, il a toujours été dans le portrait. Il a toujours été très, très bon. Et il mérite, parce que c'est le cas, d'être dans la même catégorie des joueurs que Zlatan Ibrahimovic. Et j'espère que les gens sont emballés, sont excités, parce que c'est effectivement une chance de voir ce genre de joueur fouler la pelouse du Stade Saputo ce soir. En tout cas, moi, je suis très excité.
Bon, est-ce que ça peut jouer, ça, en quelque sorte, contre les joueurs de l'Impact, de jouer contre un gars comme Wayne Rooney, c'est-à-dire peut-être être au début du match, être impressionné, même si ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Mais est-ce que ça peut être un facteur négatif? J'imagine que Rémi Garde va en parler à ses joueurs, parce que l'Impact a beaucoup à perdre dans ce match-là ce soir.
Oui, je comprends ta question. C'est vrai que je comprends l'esprit. Après, j'espère que le mot « impressionné » ne s'applique pas. Pas à ce stade de la compétition. C'est des professionnels. Tu ne peux pas être sur le terrain et être transi en regardant un joueur de la trempe de Wayne Rooney. Tu peux avoir beaucoup de respect, ça d'accord. Tu peux lui accorder beaucoup d'attention, voire un peu trop d'attention. Et c'est ce qui arrive souvent, qu'il y ait 1, 2, voire 3 joueurs qui se commettent un peu plus pour défendre sur un gars du type de Wayne Rooney, comme c'est le cas d'ailleurs pour Nacho Piatti. Et ça laisse des espaces et des ouvertures pour les joueurs qui l'entourent. Et moi, je m'attends à ce que ce soit le cas à peu près tout le temps pour DC United. Et ça tombe bien, parce que c'est pas le seul bon joueur offensif. Donc il y a ceux qui évoluent autour de lui, qui bénéficient de l'arrivée d'un Wayne Rooney. Mm-hmm. C'est pas juste un coup marketing. Je pense que sportivement, ça fait du sens. Et effectivement, tu parles de beaucoup à perdre. C'est exactement ça. Ça a l'air d'être un match piège pour l'Impact de Montréal. Il ne faut pas s'y tromper, parce que DC a beau être dernier dans l'Est, il faut regarder un peu plus attentivement leur saison. Ils n'ont que 4 victoires, oui, mais 2 de ces 4 victoires sont intervenues depuis 2 semaines, soit depuis l'arrivée de Wayne Rooney. Donc ça ressemble à un momentum déjà. Mm-hmm. Ils ont joué moins de matchs que tout le monde, parce qu'ils ont eu l'inauguration de leur nouveau stade très récemment. Et donc, la MLS a fait en sorte d'espacer un petit peu les matchs dans leur début de saison, parce qu'ils jouaient tout le temps sur la route. Ça fait en sorte que, entre aujourd'hui et la fin de la saison régulière, ils vont jouer 12 matchs à domicile. Là, il n'y a personne qui a cette chance-là dans la Ligue. Donc, attention à DC United. Ça peut être une carte cachée. Et une chose est sûre, eux, ils viennent ici, au Stade Saputo, pour gagner contre l'Impact de Montréal. Parce que ça va prendre ça, à un moment donné, gagner contre des rivaux directs et les empêcher de s'envoler. Parce que si DC perd, c'est vraiment ce genre de match à 6 points. La 5e place qui appartient à l'Impact de Montréal, eh ben elle s'éloigne de plus en plus. Donc, il y a un véritable enjeu à la fois pour l'Impact et pour DC.
Et quand tu parles du calendrier, le DC United, qui n'a joué que 18 matchs depuis le début de la saison, pour les raisons que tu viens d'expliquer, une seule équipe a joué moins de 20 matchs également, les Timbers de Portland. Écoutez, quand on regarde avec l'Impact, c'est 5 matchs de moins que l'Impact de Montréal. Donc, l'Impact, lui, qui est au plus fort, Vincent, de la course pour l'obtention d'une place en série, toujours campé au 5e rang, mais il y a quand même de la visite, là. Il y a la Nouvelle-Angleterre, il y a Philadelphie également. J'imagine que les joueurs savent que ce soir, ça peut pas être un match piège, puis tu peux pas peser sur l'accélérateur seulement rendu à la 2e mi-temps.
Oui, exactement. Tu peux pas prendre le premier but et te mettre dans une position de vulnérabilité face au DC United ce soir. Et tu sais, l'Impact a dans une certaine mesure, été dans la situation inverse l'an dernier. Pas en étant aussi bas au classement, mais en étant dans la position de l'équipe qui avait des matchs en main sur tout le monde et dans la position de l'équipe que si tu gagnes ces matchs en main, eh ben, tu te places virtuellement au quatrième ou au cinquième rang. Ça, c'est bien dans l'idée, dans l'esprit. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'être dans la position dans laquelle est l'Impact présentement, soit celle d'être déjà à la cinquième position. Parce que les autres, ils n'ont qu'une idée, une virtualité. Alors, je pense que ce qu'il faut actuellement, c'est s'accrocher à cette cinquième place, à prendre tous les points qui sont possibles. Et ça passe par une victoire ce soir, parce que là, l'Impact sort d'une séquence difficile, avec beaucoup de matchs rapprochés, des adversaires relevés, Portland, Atlanta. Là, maintenant, on est en train, tranquillement, pas vite, de rentrer dans le dernier droit de la saison. Il reste 11 matchs à l'Impact de Montréal. Ça, aujourd'hui, ça doit être une rampe de lancement vers le dernier droit de la saison, un dernier droit conquérant. À l'inverse, s'il y a un mauvais résultat, là, ça peut être handicapant, voire plombant, parce que perdre face à DC United, ensuite, la semaine prochaine, un déplacement plutôt difficile dans l'Utah, voilà, on ne peut pas se permettre de laisser échapper des points, bien au contraire. Donc, c'est un vrai beau défi qu'on a ce soir face au DC de Wayne Rooney.
Oui, et il y a eu un calendrier extrêmement chargé en juillet. On s'est parlé au mois de juillet, Vincent, 7 matchs en 22 jours. Là, heureusement, Rémi Garde a eu le temps et aura à sa disposition des joueurs qui seront frais et dispo ce soir contre Wayne Rooney et le DC United.
Dans une certaine mesure, c'est vrai. Parce que, bon, on a eu le luxe qu'on n'avait pas eu précédemment dans les dernières semaines, voire dans le dernier mois, d'avoir une semaine pour préparer ce match. Et quand je dis préparer, c'est pas seulement porter de l'attention à l'équipe adverse, mais c'est aussi reposer les uns, soigner les autres. Bon, sauf que il y avait des petits bobos par-ci. Il y avait Nacho Piatti qui était parti au match des étoiles, Saphir Taider qui, on le sait, la semaine dernière est sorti en cours de match parce qu'il était blessé aux adducteurs. Tout le monde n'était pas à 100%. Donc c'est ça a été quand même un certain défi de gestion, de ce que je comprends, cette semaine à l'entraînement. Ça ressemble finalement à une semaine internationale, ce qu'on appelle une semaine internationale où les joueurs sont convoqués pour rejoindre leur sélection et donc on s'entraîne avec une équipe pas amoindrie mais avec un effectif un peu plus léger. Donc je pense qu'on est là-dedans et n'oublie pas Yannick aussi que ça a été une semaine très agitée au niveau du mercato, que ça prend de l'énergie, ça prend de la concentration pour le personnel d'entraîneur plus que pour le vestiaire, donc ça a été aussi un facteur de préparation.
OK, mais parlons, je voulais te garder ça pour la fin, mais toute cette histoire de Jimmy Briand, finalement, oui, on est en égo, oui, on annonce son arrivée, finalement, ça marche plus, puis oui, on reprend une discussion, puis le lendemain, c'est terminé. Tu sais, on parle des joueurs, mais ça va peut-être être bizarre comme question, mais dans quel état d'esprit va se présenter Rémi Garde, ce joueur?
Bah, c'est plus les joueurs qui sont sur le terrain, je t'avoue, qui jouent le match, qui m'intéressent quelque part.
Oui.
Parce que, est-ce que eux ont été déstabilisés par tout ça?
Penses-tu?
La réponse pour moi, elle est non. Quasiment non pour l'intégralité. Il y a certains joueurs, oui, qui ont été déstabilisés. On le sait. Entre autres, les attaquants. Matteo Mancosu en premier lieu. Lui qui, veut pas, c'était lui l'attaquant numéro un. En termes de temps de jeu cette saison, mais aussi en termes de statut. C'est lui le joueur TAM pour lequel on dépensait de l'argent d'allocation. C'est lui qui a le gros salaire. C'était censé être lui l'attaquant numéro un de l'effectif. Même si Jackson avait signé une prolongation, tu regardes le statut des deux, le salaire des deux, a priori la hiérarchie, elle était assez nette. Fait que son temps de jeu aurait été directement affecté par l'arrivée d'un Jimmy Briand ou d'un autre attaquant, parce que il y a un autre attaquant du nom de Fanendo Adi qui aurait pu signer. Donc ça l'a embêté, c'est normal, comme ça embête beaucoup de joueurs en temps de mercato qui se voient menacés. Après, le vestiaire, et ça je le dis parce que je le sais, le vestiaire vit vraiment bien, et c'est même un petit peu inquiété à un moment donné lorsque le président Joey Saputo est allé dire qu'il pourrait y avoir beaucoup de changements. Si jamais la tendance qui à l'époque était très négative se maintenait, un peu inquiété que, tu sais, si t'amènes 3-4 joueurs dans un vestiaire, ça change un peu la dynamique. Quand on a un, voire deux, eux, ils n'ont pas le choix que de suivre finalement le groupe qui est déjà installé. Mais quand on amène 3-4, le groupe doit lui aussi s'adapter au nouveau. Donc ça va clairement pas être le cas d'ici au 8 août. Je ne pense pas que l'équipe qui sera sur le terrain a été très affectée par l'affaire de Jimmy Briand. Quant au personnel d'entraîneur, et Rémi Garde en particulier, je pense qu'on est plus focusé, concentré sur le fait d'obtenir une victoire ce soir. Mais quand on sort de ce match et de la préparation de ce match, c'est sûr que temps de mercato, parfois, laisse quelques traces.
OK, je souhaite, parce que j'écoutais les propos de Rémi Garde et je sentais qu'il le voulait vraiment. Et je sentais,
oui, je te confirme.
Hein? Et je sentais que lorsqu'il a dit que c'était terminé définitivement, il y avait un certain, je vais pousser le mot très fort, c'était presque un deuil qu'il devait faire parce qu'il le voyait avec le 11 montréalais Jimmy Briand.
Bien sûr. Il a dit la semaine dernière qu'il comptait sur lui même pour jouer contre Atlanta.
Exact.
Regarde, c'est aussi proche que ça, là. Il avait déjà fait des plans dans sa tête. C'est normal qu'il soit déçu. Dans une certaine mesure, les partisans le sont, et moi également, parce que je trouve que c'est effectivement un profil qui manquait à cette équipe, qui aurait pu la complémenter et faire en sorte qu'elle soit encore plus forte pour le dernier droit de la saison. Maintenant, Rémi Garde, il a fait tout ce qu'il a pu pour rabibocher un petit peu les parties. Il a joué son rôle de médiateur et il l'a plutôt bien fait, hein, parce que moi, je peux vous garantir que mardi matin, la porte, elle était fermée à l'arrivée de Jimmy Briand à l'Impact de Montréal. Garantie. Sauf qu'à un moment donné, à force de discussion, et parce que l'entraîneur le veut vraiment et que la direction est là pour aussi faire plaisir à l'entraîneur, ou en tout cas lui apporter les joueurs qu'il veut, la porte, elle s'était finalement un peu entrouverte. Et pour moi, le plus difficile, c'était de faire ça. Sauf que, au moment de se reparler, tout le monde se rend compte que la relation de confiance, elle était vraiment trop brisée pour être réparable. Et c'est aussi simple que ça, finalement. C'est que on peut redire ce qu'on pourra redire ce qu'on veut sur cette affaire. Moi, je maintiens avec tout ce que je sais, et ça n'a rien à voir avec mon statut d'analyste du diffuseur officiel ou je ne sais quelle bêtise qu'on m'a reproché parfois. Le clan Briand, ça a mal géré ça, mais ultimement, c'est pas Briand qui a perdu. C'est l'Impact, parce que là, on va sortir probablement côté Impact de Montréal d'un mercato, d'une fenêtre des transferts avec pas d'attaquants, alors que ça avait été promis, qu'on ne s'est pas renforcé, qu'on avait eu du temps, a priori, pour développer des pistes A, B et C ou je ne sais quoi. Ça ne semble pas être le cas, donc je pense qu'on va sortir avec un constat d'échec.
OK, si on revient au match en terminant, Vincent, si Saphir Taider, si Alejandro Silva, si Nacho Piatti continuent de jouer comme ils l'ont fait avant la pause, avant cette petite pause, je veux dire, ce soir, DC United, ça devrait bien fonctionner. Quoi qu'il va faire très chaud ce soir, ça peut jouer, ça, sur le rendement des joueurs?
Bien sûr que ça peut jouer, évidemment, les grosses chaleurs, avec l'effort qui a été fourni lors des dernières semaines. Et c'est évident qu'à un moment donné, sur la gestion du match et des efforts, t'as dit tantôt, et je suis d'accord avec toi, qu'on peut pas se permettre de laisser l'adversaire s'inscrire au pointage en premier. Donc ça veut dire qu'il faut bien sortir rapidement, prendre le contrôle, marquer. Est-ce que tu peux payer ces efforts-là en deuxième partie du match? Même à la fin de la première mi-temps, on a souvent vu l'Impact de Montréal qui commençait à être un petit peu à court, à un petit peu relâcher la pression, puis encaisser le jeu de l'équipe adverse en fin de première mi-temps. Moi, je trouve que ça a souvent à voir avec un petit peu de fatigue dans cet été qui a été très chaud à l'Impact de Montréal. Après, sur la première partie de ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'avec si Silva, Taider et Piatti sont aussi en forme ce soir qu'ils l'ont été, ça devrait aller, oui, mais il est là le piège. Il ne faut pas que mentalement, aucun de ces joueurs se dise ça. Parce que là, on installe un confort, pas une condescendance, mais limite. Il ne faut pas que eux croient, pas que les partisans croient non plus, ce match il est gagné avant d'être joué, parce que DC United vient pour gagner, eux ils ont faim. Alors j'espère voir une équipe de l'Impact de Montréal qui sera au moins aussi affamée que DC United.
Vincent, merci beaucoup, bon match ce soir au stade de Saputo, et on se reparle demain aux amateurs de sport week-end.
Avec grand plaisir.